Magnifique. Alors, on va commencer. Je vais présenter un petit peu. Voilà. Alors, je commence. Hein. Voilà, mes amis, on va reprendre notre étude sur le Likutey Moharam de Rabbi Nachman de Breslev. Et je suis en Zoom avec un ami, un très très grand ami, Eliaou Bokara. Et donc, on va reprendre cette étude ensemble et bien sûr, après, on la mettra sur le site et j'espère qu'on va pouvoir la faire pratiquement toutes les semaines ou au moins une fois toutes les 2 semaines. Mais de toute façon, on est parti avec l'aide du Maître du Monde pour une grande étude. Alors là, pour ceux qui voudront voir dans le texte, dans le Likutey Moharam, c'est le Likutey Moharam premier tome, car il y a 2 tomes dans le Likutey Moharam et c'est la Torah Pézaï, la Torah 87. Donc, Eliaou, je commence et tu m'interromps quand tu le veux, tu n'as pas besoin de lever le
Ok.
doigt, tu m'interromps, etc. Alors, le Rabbi Nachman commence par un verset qui dit « Titen emet le Yaakov, chesed le Avraham ». Le verset dit « Tu as donné, toi, Hachem, tu as donné la vérité à Yaakov ». Et tu as donné le chesed, c'est-à-dire la bonté à Abraham. Comme on le sait, la qualité qui caractérisait Abraham était la bonté, celle qui caractérisait Jacob était la vérité. Alors bien sûr, bon, c'est un verset, traduction littérale, ça ne veut strictement rien dire. Grâce à Dieu, on a les maîtres d'Israël qui vont nous faire rentrer très profondément dans cette étude. Alors Rabbi Nachman explique. À Inyan où? À quoi fait allusion ce verset? Qui a nouroim bechouch. Je ne sais pas si on arrivera même à tout terminer, bien que c'est un petit texte, on terminera la prochaine fois, la semaine prochaine, mais au moins on commence.
NBA.
Qui a nouroim bechouch. On voit et on ressent très, très clairement. Techef que chez Adam rotse leiler bederech ayasha. Dès qu'un homme prend sur lui d'avancer dans un chemin de vérité, dans un chemin de droiture, mit orerim alav dinim, tout de suite, lui tombe sur la tête des difficultés, des épreuves. Et il dit, Ve'asvara ou le'efer. Normalement, la logique serait dû être le contraire. Si quelqu'un se rapproche de Dieu, si quelqu'un se rapproche de la vérité, Hachem devrait lui ouvrir les grands bras de la bonté, les grands bras de l'amour, les grands bras de la réussite. Or, on constate effectivement sur le terrain que tant qu'un homme vit dans l'oubli total du sens réel et profond de sa vie, ça va plus ou moins bien. Plus ou moins, parce que bon, il y a toujours malgré tout des difficultés. Mais par contre, à partir du moment où une personne véritablement prend sur lui de vivre à l'encontre du système, à l'encontre du mensonge, à l'encontre de tout ce que le monde autour de nous fait pour nous déconnecter de notre véritable source, et que lui se bat pour redevenir un homme authentique, immédiatement se réveillent contre lui des difficultés énormes, des épreuves, des souffrances, des épreuves qui, apparemment, comme dit Rabbi Nachman, et j'attends tout de suite ton intervention, normalement, encore une fois, je me répète, on aurait dû s'attendre au contraire. Si je me rapproche de la vérité, alors pourquoi Hachem me met des bâtons dans les roues? Pourquoi je dois traverser tellement d'épreuves alors que je fais tout pour revenir vers la vérité? Comment tu comprends ça, Eliaou?
Bah, à mon avis, ça ne doit pas rester théorique.
Oui.
C'est-à-dire, on est éprouvé. Hachem, c'est comme un méamen. Et quand on sait, par exemple,
C'est
qu'on
comme
fait un
un.
entraînement, comme un méamen, c'est un entraîneur, Hachem. C'est un coach. C'est le plus grand coach, Hachem.
C'est un coup.
Et il nous met à l'épreuve. Il nous fait travailler. C'est-à-dire, on peut comprendre des choses par le cerveau, mais tant qu'on ne l'a pas mis en application dans la réalité de la vie, c'est-à-dire, on ne s'est pas confronté à une épreuve, le muscle ne va pas se renforcer. Où la technique ne va pas s'affûter. Donc, à mon avis, il nous teste comme un méamène pour par l'épreuve, par le creuset des épreuves, il nous renforce. Sachant qu'on entend quand même que toute épreuve est à la hauteur de chaque homme qui la reçoit. Donc, normalement, si on reçoit une épreuve, on a les forces pour s'en sortir, théoriquement.
Je vais reprendre ce que tu dis parce que c'est tellement juste, tellement vrai, tellement profond que permets-moi de reprendre ce que tu dis. Tu sais ce que tu viens de dire? C'est qu'en vérité, être un homme, c'est être un combattant. C'est ça, être un homme. Et tu as donné l'exemple sublime, mais vraiment sublime, que quand quelqu'un rentre dans une unité d'élite, ou quand quelqu'un rentre dans une activité sportive importante, eh bien, il va devoir passer des difficultés énormes pour savoir s'il est à la hauteur. Prenons l'exemple de l'armée, si quelqu'un rentre dans une unité d'élite, il y en a peut-être 1000 qui rentrent au départ, il y en a peut-être 30, 40 qui sortiront à la fin de l'entraînement. Et donc, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire qu'en vérité, être un homme authentique, c'est être un combattant. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dès que tu veux devenir un homme authentique, on aurait pu croire, comme malheureusement tous les mensonges des religions, y compris la religion juive qui n'a rien à voir avec la Torah, comme je dis toujours, il faut être gentil, il faut être mignon, il faut être avec le bon Dieu, machin, etc. Et voilà, ça c'est des mensonges que nous déversent toutes les religions depuis des millénaires. Mais qu'est-ce que nous enseigne la Torah? Qu'est-ce que nous enseigne un maître authentique comme Rabbi Nachman? Pourquoi les difficultés? Parce que justement, je répète tes mots, Hachem veut tester si vraiment tu es un homme authentique. Est-ce que tu es un guerrier? Est-ce que tu es un combattant? Est-ce que tu es quelqu'un qui résiste et qui ne se désespère pas? Ça, c'est la définition d'un homme. C'est pour ça, je te demande à toi la question, mais tu vas répondre à ma place. Qui est le modèle du juif authentique dans la Torah?
Vous avez lu dans mes pensées, c'est ce que j'allais dire, c'est que le roi David a été éprouvé toute sa vie. Et Yaakov aussi, parce que Yaakov a pris la bracha d'Esav. Esav, c'était un homme terrestre. Il était obligé d'affronter la vie, d'être confronté à la vanne, de combattre contre l'ange d'Esav, de combattre contre Esav, pour recevoir la vraie bracha d'Esav. C'est-à-dire, comme il a reçu le céleste et le terrestre, il a été obligé d'être confronté à toutes les épreuves. On le voit avec Yosef, on le voit avec ses enfants, on le voit avec la vanne.
D'abord, sache que nos maîtres disent que jamais un homme n'a été éprouvé dans sa vie autant que le roi David, jusqu'à avoir un fils qui voulait le tuer.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'il est devenu le modèle d'Israël, pour nous faire comprendre que le modèle, ce n'est pas un saint avec une auréole sur la tête qui est en train de prier avec les yeux vers le ciel toute la journée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais ce n'est pas ça le modèle. Le modèle, c'est un homme sur un cheval avec une épée et qui est en même temps un homme d'une spiritualité inimaginable puisque c'est lui qui a donné les psaumes au monde entier. Bien sûr. Donc, il y a à la fois la puissance de l'âme et la puissance du corps. Ça, c'est un homme authentique. Et c'est pour ça que c'est le modèle.
C'est ça, toute la descente de l'âme dans le corps. Et c'est vrai qu'on a envie de se laisser bercer par l'illusion parce qu'on peut entendre certains rabbanim qui disent que quand le Mashiach va venir, il va faire que des miracles et c'est Hachem qui va tout régler comme pendant la sortie d'Égypte. Mais on voit bien que le Mashiach, il aura une parcelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu, mais il sera sur le modèle du roi David. Donc le roi David, il a vraiment sorti son épée. Il a vraiment combattu contre tous les rois qui étaient aux alentours d'Eretz Israël. Il a combattu physiquement et spirituellement dans les deux mondes, autant dans le monde des Tehillim que dans le monde de la matière. On voit qu'il y a un combat qui doit être concret. Et comme vous l'avez bien dit au départ, on est parti en exil et on a conservé la Torah de façon spirituelle, théorique et philosophique. Et on a perdu le corps. Le corps est en train de ressusciter, de se régénérer avec la terre d'Israël. On le voit bien avec l'armée d'Israël. Elle est en train de se régénérer. L'esprit aussi est en train de se régénérer. La Torah est en train de se régénérer. Maintenant, il faut une fusion de tout ça. C'est-à-dire retrouver les Hébreux, en fait. On doit retrouver les Hébreux authentiques. Et on passe par des épreuves contre le monde ishmaélite qui nous ramène à ce qu'on doit être, savoir se battre, savoir combattre, être aguerri et en même temps avoir une Torah qui est puissante, qu'on est capable de mettre dans le monde des affaires, qu'on est capable de mettre dans le monde du combat, dans le couple, dans tous les domaines de la vie. Et c'est là qu'on est vraiment testé. Est-ce que votre Torah, elle n'est que spirituelle et théorique, ou est-ce que votre Torah, elle rentre dans ce monde? Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce monde?
Bravo, vraiment bravo. Et effectivement, c'est ce à quoi fait allusion Rabbi Nachman. Et en passant, combien de fois j'ai dit que Rabbi Nachman lui a été éprouvé d'une manière inimaginable toute sa vie. D'abord, il est mort à 38 ans, après 2 ans de tuberculose, et il a enterré dans sa vie une femme, pratiquement tous ses enfants et pratiquement tous ses petits-enfants. Il a passé sa vie dans le deuil. C'est une famille qui a été, mais vraiment, lapidée. Et lui-même est parti à 38 ans. Ça veut dire qu'il n'a eu que des épreuves, que des épreuves. Ses enfants, ses petits-enfants. Et Alors évidemment, on ne comprend pas pourquoi Hachem fait ça sur le plan purement, on pourrait dire, logique de ce monde. Mais d'un autre côté, il a su comment surmonter ses épreuves et il est devenu le plus grand maître de tous les temps, pratiquement. Enfin, surtout par rapport à ces derniers siècles. C'est aujourd'hui la référence absolue de la lumière authentique. S'il n'avait pas été éprouvé comme ça, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. C'est sûr.
Alors vous répondez à la question du texte, c'est-à-dire vraiment c'est ça, c'est-à-dire que Hachem, plus il va éprouver un homme, plus il va presser l'olive, plus il va presser le peuple d'Israël, et plus, malheureusement, c'est là qu'il va sortir les meilleures choses du peuple juif. Mais c'est ça que j'ai, et justement quand je lis le Likutei Moharan, il explique qu'on doit se préparer à souffrir. On doit se préparer à souffrir. Alors il y a deux façons de le prendre. Un, soit tu veux devenir un grand combattant, et si tu veux devenir un grand combattant de Muay Thai, de Krav Maga dans un sport de combat, tu dois être préparé à souffrir. Parce que tu vas perdre de la sueur, tu vas perdre du sang, tu vas perdre énormément de choses, et tu vas apprendre à perdre. Parce qu'un grand combattant, il a perdu beaucoup de fois, et c'est vrai qu'on peut éviter de devenir un grand combattant. À la première défaite, on arrête, on se dit « c'est pas fait pour moi ». Donc c'est pareil pour le peuple juif, le combat du peuple juif, c'est on va affronter les champions de ce monde, les champions dans le mal, et ils sont forts, ils sont aussi puissants que Goliath, ils ont une puissance des forces du mal qui va être énorme. Donc là encore, on retrouve le roi David, malgré le fait qu'il soit jeune, qu'il soit peut-être moins expérimenté, mais il a la force de l'éternité contre la force de la matière. Donc les Jeux Olympiques d'Athènes contre le peuple.
Parce que David était minuscule par rapport à Goliath, mais par contre sa volonté était géante par rapport à celle de Goliath. Goliath avait la puissance physique, mais il avait un, on va dire, il avait un pois chiche dans la tête. David c'était le contraire. Il était petit par rapport à Goliath, mais il avait une volonté, une détermination qui était sans limite. Et donc, en fait, la véritable force, bien sûr que c'est important d'avoir une force physique, mais ce n'est pas seulement la force physique, c'est surtout la volonté de ne jamais revenir en arrière, de ne jamais baisser les bras. Ça, c'est la véritable force.
Bien sûr. Et on le voit avec les Israéliens. On voit les Sabras, la mentalité qu'ils ont. Ils ont quand même une mentalité où ils ont peur de rien. Et on le voit, on dit souvent, les jeunes, ils sont chutzpa et tout. Mais ils ont cette capacité en eux, c'est-à-dire que c'est comme si l'ADN du peuple juif avait traversé donc toutes ces épreuves, tous ces pogroms, toutes ces histoires, et à force du temps, tous ceux qui ont survécu ont transmis à leurs enfants, l'air de rien, la force de résister à toutes les épreuves. Et ceux qui sont arrivés jusqu'aux dernières graines d'Israël, c'est-à-dire les Sabras d'aujourd'hui qui ont été plantés en Eretz Israël, ils ont cette force davidienne en eux qui est en train de se révéler. On l'a vu avec la guerre de six jours quand même, c'était quand même énorme. Il fallait avoir du courage quand même pour faire cette guerre, même si on s'est caché mais derrière et que c'est des miracles.
Je rajouterai juste, tu as 100% raison Eliaou, je rajouterai juste malgré tout pour nuancer que ces derniers temps, il semble que nos gouvernants font tout pour nous faire revenir à être un peu comme les autres et peut-être encore plus faibles que les autres. N'oublions pas malgré tout qu'on est le seul peuple qui en même pas un mois a vacciné 2 millions de personnes. Et je peux te garantir que je reçois des messages de tous mes élèves, de tous mes amis Bnei Adam qui ne sont pas juifs et qui sont bouleversés, qui sont étonnés, qui sont tellement choqués. Mais on pensait que vous étiez un peuple modèle, mais comment vous faites pour devenir le cobaye des expérimentations de Pfizer? Et ils sont choqués, les gens. Et malheureusement, je confirme ce que tu dis. Parce que, on pourrait dire, jusqu'à il y a à peu près quelques années, Israël était un peuple d'une puissance, d'une détermination. En fait, en 70 ans, on est devenu l'un des peuples les plus puissants de la Terre, sur le plan économique, sur le plan militaire. Mais je pense qu'il y a un complot maintenant qui touche même nos propres dirigeants, que le monde a peur de la puissance d'Israël et fait tout pour ramener Israël, on pourrait dire, à sa mentalité d'exilé. C'est-à-dire le petit mouton qui baisse la tête quand il prend une claque. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment, ce qui prouve qu'on approche de la délivrance finale jusqu'à ce qu'il y aura un réveil à nouveau qui va redonner à l'Israélien sa véritable identité d'être un combattant qui n'a peur de rien. Mais pour l'instant, on vit dans un tunnel qui n'est vraiment, vraiment pas flatteur. Quoi qu'il
vous, avez uti- vous avez utilisé le bon mot. Vous avez utilisé le mot expérimentation. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'expérimenter sur le peuple juif et depuis longtemps. C'est-à-dire, autant nous, comme vous le dites souvent dans vos cours, on est un microcosme de l'humanité, c'est-à-dire on est une extraction, donc un laboratoire de l'humanité, mais qui est derrière les mains de ce laboratoire? Et ça, c'est ça l'histoire.
De toute Est-ce façon, que c'est... Le complot mondial sait que tant qu'il y aura des Juifs sur Terre, ils ne pourront pas dominer l'humanité tout entière. Donc depuis qu'on est né, les dirigeants cherchent à nous détruire parce qu'ils veulent, c'est pas pour nous détruire en tant que tel, parce qu'ils veulent la mainmise sur le monde entier. Ils savent que tant qu'il y aura un juif sur terre, il y aura toujours un os dans la gorge de ceux qui veulent dominer le monde. Et c'est pour ça qu'ils essayent aujourd'hui avec le vaccin, demain avec autre chose, hier avec autre chose, ils essayent de nous détruire. Parce que même si aujourd'hui il est vrai que le peuple juif, malheureusement, semble revenir vers son identité d'exil, d'exilé, il reste à l'intérieur du peuple juif une poignée de guerriers comme le roi David qui ne céderont jamais, 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 jamais. Et c'est grâce à eux que Israël reprendra et retrouvera sa véritable identité.
Amen. Mais ce que je vois par rapport au texte qui veut dire, en fait, si on voit bien à travers le temps ce qui s'est passé, et on voit bien la force du roi David. On voit bien que le roi David, quand il a pris le pouvoir, il était très humble. Déjà, il avait une humilité. Mais au niveau de la force, il était déterminé au niveau de la force physique. Parce qu'on n'en parle pas assez. Et c'est comme un peu tabou dans le peuple juif, comme si on devait être un peuple que spirituel et philosophique. Et il y a une forme de tabou dessus, comme si c'était, il y avait un danger de rentrer dans le peuple grec. Dès qu'on parlait de la force physique, alors qu'on voit que le...
Staïaou, je vais juste continuer parce que c'est très important ce que tu dis, mais ça c'est la conséquence de l'exil qui a transformé, excusez-moi, je vais le dire, mais je le sais que c'est vrai, la plupart de nos rabbinim en curé. Ça veut dire qu'ils ne s'occupent que de spiritualité parce que pendant des millénaires, on n'avait plus de terre, on n'a pas d'armée, on n'a rien. Donc nos rabbinim se sont focalisés sur la dimension spirituelle, sur la religion juive, qui est l'un des plus grands mensonges de toute la terre, comme toutes les religions. Et donc finalement, je veux dire, on dit rabbin, on dit curé, mais pour moi, c'est exactement la même chose. On n'est pas dirigé par des puissances spirituelles qui incarnent la véritable identité du peuple juif.
Mais on est dirigé... C'est ça le problème.
C'est tout.
C'est ça le problème. Et c'est ce dont on parlait la dernière fois par rapport au Rav Kook, qui expliquait donc la teshuva. La teshuva commence par le corps, et on voit bien que la teshuva sur la terre d'Israël, elle a commencé par le corps. Il y a d'abord eu une reconstruction de la terre, les marécages ont été transformés en oasis, donc il y a eu d'abord, la matière est revenue, et après, petit à petit, on voit que de plus en plus le peuple fait teshuva aussi sur la partie toraïque, et reviennent à la Torah. Donc, on voit bien que
s'il n'y a pas un corps... Comme la construction de Adam, Hachem a d'abord construit le corps, et après il a soufflé l'âme dans le corps.
Exactement. Donc, ça veut bien dire que le chemin est qu'on doit avoir un corps fort, et que tous ces passages qu'on a traversés doivent nous rendre plus forts physiquement. Et on voit bien que les nations nous respectent quand on est fort physiquement, et aussi spirituellement. Mais si on n'a que la spiritualité, ils se servent de nous, ils nous coupent les papillotes, comme on dit, et ils nous mettent la botte sur la tête. Par contre, si on a les papillotes et la force physique du roi David, là, on arrive dans le monde de la Géoula, et là, tous ceux qui doivent s'allier à Israël et au Mélère à Machiar, ils vont vouloir le suivre. Parce que les gens en ont marre de la religion, ils en ont peur. Il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui ont peur, parce que, comme vous l'expliquez énormément dans vos cours, c'est, on a tellement voulu mettre un pouvoir religieux sur la tête des gens, les juger, utiliser le pouvoir de Dieu pour manipuler les intérêts personnels de chacun. Aujourd'hui, la religion, chez beaucoup de gens, a une mauvaise image, et c'est malheureux, parce qu'au final, la Torah d'Israël, elle est beaucoup plus puissante que juste un message théorique et philosophique. Votre message... Votre Torah, elle me parle énormément, je pense qu'elle parle énormément à beaucoup de juifs et aussi énormément de non-juifs, parce que vous dites énormément de vérité, et la Torah que vous enseignez, elle est actuelle. elle se mêle avec ce monde. Elle permet de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment c'est lié. J'ai écouté votre cours sur le serpent, qui est le vrai serpent, mais il est magnifique le cours. Comprendre le bâton, le sceptre de Moshé, qui représente la royauté, qui représente le pouvoir, que si ce n'est pas un homme de sagesse et d'humilité qui utilise ce pouvoir, ça va se transformer en serpent, donc en malédiction, mais c'est magnifique. Et ça, souvent, on ne l'entend pas. Et ce que vous transmettez comme Torah, elle renforce, elle réveille cet état d'esprit messianique, davidien, qui est en train de réveiller aussi les gens qui étaient les plus éloignés, entre guillemets, de la religion, parce que ça ne leur parlait pas. Ça ne leur parlait pas.
On sait que la délivrance finale ne viendra absolument pas des représentants spirituels du peuple juif, mais elle viendra du peuple. Il y aura un réveil au niveau du peuple qui se prendra en main et qui refusera une fois pour toutes d'écouter tous ceux qui sont en haut et qui se prétendent être le représentant de Dieu. Et on bouchera les oreilles et c'est comme ça qu'on arrivera à la délivrance. Parce qu'on va comprendre qu'en vérité, que c'est la religion qui nous a maintenus en otage pendant des millénaires. Toutes les religions, c'est tous les peuples, mais chez nous aussi. C'est elle qui nous empêche d'agir. Parce que ne t'inquiète pas, le bon Dieu est là, il va tout arranger et le Messie va venir. Et donc, j'ai rien à faire. Et c'est pour ça que ça fait des millénaires qu'on est en exil. Parce qu'on sait que Dieu va prendre les choses en main.
Excusez-moi, Rav.
Un petit peu, oui.
Je reviens juste sur le Rav Kook, parce que c'est important quand même d'expliquer ce que j'ai en cru comprendre, en tout cas, de ce qu'il expliquait. C'est que chaque juif qui renforce son corps, qui renforce les muscles de son corps, élève l'étude des tzadikim. C'est-à-dire que normalement...
Il dit plus que ça, il dit... Bon, c'est un cours en hébreu que je fais avec Amir, je ne sais pas si tu te rappelles de Amir, enfin, tu sais que j'ai un YouTube avec des milliers de cours en hébreu. Et on a lu ce texte dont tu parles, il dit encore plus que ça, pour rajouter à ce que tu dis, que pas seulement un juif qui ne s'occupe pas de son corps n'a rien à voir avec la Torah, mais il dit qu'en vérité, la première étape de la Teshuvah, c'est de renforcer son corps. Avant, tout ce qu'on nous fait croire aujourd'hui, mange kasher, fais shabbat, bon, si t'es gros, si t'es obèse, si t'es maigre, c'est pas grave, le principal, c'est que tu fasses la volonté de Dieu. D'accord ? La religion, le Rav Kook dit tout le contraire. La première étape de la teshuvah, celle qui te permet d'arriver à la vraie teshuvah après spirituelle, c'est si d'abord tu renforces ton corps.
Bien sûr, et on le voit avec le Beit HaMikdash. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temple aujourd'hui parce qu'à mon avis, nos corps sont encore faibles. C'est-à-dire que David a pu permettre à Shlomo de construire le temple parce qu'il a sécurisé tous les alentours. C'est-à-dire qu'il a montré que le corps d'Israël était fort. On ne pouvait pas le toucher.
Ce qui a instauré David, c'est le corps et Shlomo, c'est plus l'âme.
Le père, l'âme et la paix.
Mais la paix. Mais sans David, il n'y aurait jamais eu le temple. Bravo, et c'est exactement ça.
Et David, il n'y aurait pas eu de paix.
C'est un guerrier.
Exactement, la paix est venue par un homme qui a montré que dans le monde terrestre, c'est pas que de la philosophie, la Torah. Dans le monde réaliste, je vais combattre avec la Torah. Ce qu'on appellerait aujourd'hui un djihad, au final. Une guerre sainte. Ce que les musulmans nous ont repris, parce qu'ils connaissent Daoud, ils l'appellent Daoud, David, ils ont repris cet état d'esprit. Sauf qu'ils l'utilisent mal, malheureusement, parce qu'au lieu de combattre les puissants, c'est-à-dire s'ils avaient la capacité de faire un attentat sur les puissants de ce monde, gouvernements.
Ils ont besoin de leur argent.
Donc pourquoi ils ne le font jamais ?
Les terroristes sont soutenus par tous les puissants de ce monde, on le sait aujourd'hui.
Voilà, donc on le voit, et ils tuent que des innocents. Oui. Par contre, la vraie guerre sainte, ça serait des hommes de Torah, comme le Mashiach, qui va affronter les gouvernements, aucune crainte.
Absolument.
Sans aucune crainte, ni physique, ni psychologique. Ils vont être prêts à affronter tous ces gouvernements, malgré la technologie, malgré les virus, malgré la capacité de détruire une personne à distance. Lui, il aura la bouche et aussi la force. Il va falloir un jour ou l'autre que le peuple juif prenne le courage de faire ça. Parce qu'on voyait même l'armée de David était capable d'aller intervenir dans les quatre coins du monde quand il y avait des injustices. Il ne pouvait pas laisser des injustices comme ça. Et ça devrait être le rôle du peuple juif d'agir quand on voit des injustices.
Bon, j'espère qu'il nous prendra dans son armée quand même.
Bezrat Hashem. On renforce le corps pour ça.
Magnifique, Eliaou. Bien, on fait encore une phrase ou deux. Et bon, ben, c'est un texte qu'on va faire sur plusieurs semaines. Je ne pensais pas que ce serait autant de temps sur les trois premières lignes. Mais de toute façon, c'est ça la véritable étude de la Torah. C'est pas lire un texte, le traduire et puis dire « ouais, bravo, c'était très bien ». La véritable étude, c'est quand on lit une phrase et on peut rester pendant une heure sur une phrase. C'est ça l'étude de la Torah.
Bien sûr, bien sûr. Donc l'épreuve nous rend des guerriers.
L'épreuve nous rend des guerriers.
Non, mais je pense.
Tu sais, c'est fou ce que tu as dit. Parce qu'on aurait pu croire que le bon Dieu nous éprouve. Enfin, le bon Dieu dans les religions, quoi. Parce qu'il n'est pas bon du tout, le bon Dieu qui nous éprouve. Mais, enfin, oui, mais pas dans le sens qu'on le comprend à l'église ou à la synagogue. Mais ce que je veux dire, c'est que. On aurait pu croire que toutes les épreuves, c'est pour nous tester, mais sans entrer dans les détails. Toi, tu as mis le doigt sur la définition authentique de l'épreuve pour faire de toi un guerrier qui n'a peur de rien.
Exactement.
Voilà. Et bon, comme tu sais, je veux dire, bon, depuis le corona, malheureusement, plus, parce que les bases militaires sont fermées aux étrangers, à ceux qui ne sont pas des soldats. Mais pendant des années, j'ai enseigné à l'armée. Et pendant, ça m'arrivait très souvent que j'étais invité dans un endroit d'entraînement, dans le désert, etc. Et je voyais les entraînements que ces jeunes de 18 ou 19 ans passaient. Je me disais, mais pas possible, mais comment ils tiennent le coup? On les laissait boire une gorgée d'eau toutes les 3 ou 4 heures, en plein mois d'août, à 50 à Londres, sans compter les efforts physiques. Mais c'est ça, c'est exactement ce qu'on dit. Si tu
c'est
veux
ça qui fait les
guerriers, tu es obligé de passer par des épreuves qui sont surnaturelles.
C'est comme ça qu'on fait l'élite.
C'est comme ça qu'on fait
l'élite. Et le peuple qui a été choisi pour représenter la force d'Hachem dans tous les domaines, eh ben, il doit passer l'épreuve des saïrettes. Voilà. Et on est éprouvé comme des saïrettes, et au bout du bout, il n'en restera pas beaucoup.
Une unité d'élite, oui.
Exactement.
Bien, on va continuer encore une phrase ou deux. Alors, Yesh shnei minei yira. Rabbi Nachman dit, sache qu'il y a deux types de crainte d'Hachem. C'est-à-dire deux niveaux, du bas vers le haut. Yira ta'onesh. Bon, là, de toute façon, on reviendra la semaine prochaine là-dessus parce que c'est un sujet d'une profondeur incroyable et surtout que ça peut être très, très, très mal compris si on n'y passe pas une heure rien que sur les deux phrases qu'on va lire maintenant. Yira ta'onesh, ce qu'on appelle la crainte de la punition, mot à mot. C'est-à-dire que si tu vas à l'encontre de la volonté d'Hachem, tu peux être puni. Ve'irat haromemut. Et le niveau le plus haut s'appelle, traduction littérale, irat haromemut, la crainte devant sa grandeur infinie. C'est-à-dire que ce n'est pas la crainte devant la peur d'être puni, mais comme quand tu es en présence de quelqu'un de « waouh !» et tu as un respect, donc on ne va plus traduire par crainte, mais plutôt par respect. Le respect incroyable devant la grandeur infinie d'Hachem. Bien, on fait encore une phrase ou deux. Yirat Haonesh, la première crainte qui est la plus basse, qui est la première étape, la crainte d'être puni. Nikra Tzedek, s'appelle Tzedek, ça veut dire la justice. Tzedek, c'est justice. Ça veut dire que Dieu rend justice dans ce monde. Et d'une certaine manière, comme dans n'importe quel tribunal, on punit celui qui s'est mal comporté. Ve'irat haromemut, ça c'est très important, mais là on va revenir la semaine prochaine dessus. Irat haromemut nikra emuna, le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre, qu'on appelle le respect devant sa grandeur inimaginable, en vérité c'est le mot emuna, traduit en français la foi, mais comme j'ai toujours dit, c'est un mot chrétien qui n'a rien à voir avec le mot emuna. La emuna, ça veut dire une confiance sans limite dans le maître du monde, qui mechamat sheu ma'amin be'emuna shlema, car celui qui arrive à ce niveau de emuna absolu, total, et c'est quoi ce niveau d'absolu? Après on s'arrête et on va parler un petit peu. Chez Hachem Yitbarach, que Dieu, ura veshalit, est puissant, et c'est lui le seul véritable dirigeant dans ce monde, Ikra Veshorcha de Chol Almin, et c'est lui la source et la racine de tout ce qui se passe sur terre dans tous les mondes. Donc, la définition de l'Emouna, c'est comprendre, malgré toutes les vitrines de ce monde, malgré toutes les illusions et les mensonges de ce monde, c'est Bill Gates, c'est ci, c'est ça, c'est Macron, c'est Bibi,
c'est Paro.
C'est Paro. Non, Le seul vrai dirigeant qui est le seul à avoir la véritable puissance de faire ce qu'il veut dans le monde, c'est Hachem. Et c'est lui la source de tout ce qui se passe dans ce monde. Alors évidemment, ça suscite des milliards de questions. Ah oui, alors donc c'est lui qui a voulu Auschwitz, c'est lui qui a voulu Treblinka, c'est lui qui a voulu le viol de toutes les petites filles Yazdin de 8-9 ans qui étaient violées 50 ou 60 fois par jour jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est lui qui a voulu le massacre entre les Toussites et les Hutus. Bon, les questions, elles sont infinies. C'est lui qui a voulu les massacres de l'Ouganda et les 50 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, 30 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale, 70 millions de morts en même pas 10 ans. Et c'est lui qui est à l'origine de toutes les maladies, de toutes les cibles. Ça veut dire quoi tout ça? Donc ça, il va falloir consacrer un temps très fort. Mais je préviens déjà nos auditeurs qu'on se retrouve, Eliaou et moi, la semaine prochaine pour revenir sur cette notion-là. La seule chose que je voudrais, Eliaou, c'est qu'on conclut le cours d'aujourd'hui en disant qu'on n'explique rien, on ne fait que commencer à expliquer. Comment tu comprends la première définition de la crainte, qu'il appelle la crainte de la punition? Mais celui qui ne croit pas en Dieu, il n'en a rien à foutre de la crainte de la punition, puisqu'il ne croit pas en Dieu. Alors c'est quoi la crainte de la punition? C'est quoi? Comment
tu comprends? J'ai souvent entendu le mot « justice cosmique ». En gros, quand tu fais du mal à quelqu'un, ou quand tu fais du mal autour de toi, tu crées une onde. Et cette onde, elle revient tôt ou tard comme un boomerang. Et tu sens que tu n'es pas bien, parce que chaque être humain, il a un minimum de conscience, normalement. Donc il sait, à part qu'au bout d'un moment, la conscience...
Les grands méchants, les nazis, etc., ils tuaient des milliers d'enfants par jour, et ça ne leur faisait rien du tout.
Ouais, mais ils ont dû avoir une première conscience, je pense, au démarrage. C'est-à-dire, quand on passe les limites, c'est pour ça que les sociétés secrètes, les sectes font faire des crimes rituels, des meurtres, pour habituer les gens à enfreindre le premier commandement du Créateur, tu ne tueras point. C'est-à-dire, mets-toi de mon côté.
Et tu dis 100% juste. Tu sais qu'avant que la guerre ne commence, Hitler avait commencé à entraîner les unités SS, qu'on appelle les têtes de mort, à tuer dans les hôpitaux psychiatriques ou choses comme ça, des débiles mentaux, etc. Il commençait à s'entraîner sur des gens qui, bon, dont la vie, entre parenthèses, n'avait pas trop d'importance, selon leur vision eux, des choses. Mais c'est vrai que les nazis n'ont pas commencé tout de suite à tuer des femmes et des enfants. Pendant des années, ils se sont entraînés dans des hôpitaux à tuer des gens qui étaient plus ou moins malades pour qu'ils s'habituent. Exactement ce que tu dis.
Voilà, il y a une initiation au meurtre, une initiation au mal. Et on le voit de toute façon, on est tous passés par là. Parce qu'on a tous une part de mal et de bien en nous. On a tous vu quand on faisait des choses négatives, qu'on a un moment de conscience. Et quand on répète ces choses négatives plusieurs fois, elle devient presque normale. Donc, on a cette sensibilité au départ. Maintenant, il y a sûrement, et vous le dites, il y a des hommes qui ne sont pas des adamiques. Donc, on ne parle pas de cela. Mais on parle de l'être humain adamique. Il peut être entraîné. On regarde, par exemple, aux États-Unis, dans les gangs américains. Les jeunes sont pris dans les gangs. Et pour rentrer dans un gang, ils doivent tuer quelqu'un du gang adverse. Ils le font une fois. Ils montent en grade. Et petit à petit, ils commencent à s'habituer. Les SS, ça devait être la même façon. Les jeunesses hitlériennes, on en a tous entendu parler. Ils prenaient tout petits les enfants et ils leur renseignaient le combat depuis tout petit. Comme
aujourd'hui, à hasard, dans les écoles, voilà. Les 8 ans, on leur apprend à tirer, à faire du mal, etc. Ça,
exactement.
Les journaux français n'en parlent pas, mais nous, en Israël, on le sait ce qui se passe dans les écoles à hasard. Dès l'âge de 7-8 ans, on leur apprend à tuer.
Exactement. Et on l'a vu en Afrique aussi, les enfants soldats, tout ça. Donc,
en Afrique, évidemment.
Voilà.
On prenait de force aux parents.
Bien sûr.
Et au bout de quelques mois, devenaient des monstres.
Bien sûr. Donc là, la crainte commence à disparaître, mais il y en a quand même une. Maintenant, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une génération qui soit prise depuis l'enfance, à qui on a enseigné les pires crimes, les pires atrocités. En fait, c'est des enfants qui ont été torturés au final, qu'on a torturés, à qui on a enlevé la conscience, à qui on a enlevé l'âme, à qui on a absorbé l'âme, et qui sont devenus des tueurs de sang-froid en grandissant. Donc cette crainte-là, elle a sûrement disparu. Mais on l'a tous. On ressent que quand on fait quelque chose de mal, il y a quelque chose, on risque de recevoir quelque chose de mauvais. Maintenant, même quand on voit, quand les gens passent devant un tribunal, quand il y a eu le jugement de Nuremberg, même s'il paraissait froid, tôt ou tard, il y a une justice qui s'applique. Donc cette crainte-là, comme vous dites, c'est le premier, comme Rabbi Nachman dit, c'est le premier niveau de crainte. C'est-à-dire, j'ai fait une bêtise, tant que je ne me fais pas avoir ça va. Mais le jour où je suis jugé, ou le jour où on me met face à mes erreurs, ou à mes problèmes, ou au mal que j'ai fait, là, je commence à avoir peur de la punition. Donc, c'est une espèce de boomerang qui est envoyé en fonction du mal qu'on fait. Et ça, on le ressent.
Les vrais méchants dans ce monde et dans toutes les générations n'ont pas peur de la punition. Puis qu'ils font tellement de mal et ils continuent à vivre comme s'ils n'ont rien n'était. Les banques, la mafia colombienne, mexicaine, toutes les grands trusts financiers qui tuent tous ceux qui les dérangent, comme on le sait, etc. Et on sait très bien que les grandes firmes pharmaceutiques, s'il y a un petit agriculteur qui trouve une petite plante qui est pratiquement gratuite, qui peut guérir du cancer, il termine pas la journée. Tout de suite, on le tue parce qu'eux, ils vont se faire des milliards avec ce qu'ils vont vendre comme médicament.
Parce qu'à mon avis, ils ont dû faire le choix du mal. C'est-à-dire que le choix du mal, c'est le choix le plus facile. On peut tous écraser une mouche, on peut tous écraser un insecte, on peut tous le faire, et c'est facile, et ça donne une sensation de pouvoir, c'est la facilité. C'est-à-dire que quand on choisit le mal, on sent qu'on a une récompense immédiate, qui est tout de suite, qui est valorisante, et plus on monte dans les échelons du mal, donc vous parlez de la mafia, on a parlé des enfants soldats, on a parlé du djihad aussi, des enfants qui sont recrutés, plus tu montes dans les échelons du mal, plus ton cœur s'endurcit, plus ton cœur devient un cœur de pierre.
Et plus tu cesses d'être un être humain, tu deviens un démon.
Voilà, et tu deviens
tout l'humain qui est en toi.
Exactement.
Donc quand Rabbi Nachman parle ici de la crainte de la punition, il parle pour un homme qui est encore normal, juif ou non juif. Mais il parle pour quelqu'un qui est encore normal, ça veut dire qu'il n'est pas rentré dans l'école du mal.
Du crime, exactement.
Il est un homme normal qui a des défauts, qui fait des fautes, mais il a cette conscience qui constamment lui fait prendre conscience que tu ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible, mais comment tu te comportes?
Bien sûr, on est d'accord, à 100%.
Bon, écoutez, Léon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprend cette notion de la crainte, de la punition, et surtout de la émouna, c'est le prochain cours. Mercredi prochain à la même heure.
Aucun problème.
Mercredi prochain à la même heure, je te remercie énormément.
Merci à vous.
Et on continue jusqu'à du Mashiach et après encore.
Bezrat Hashem, qu'il vienne rapidement et que surtout que le peuple juif redresse la tête, se réveille, se renforce et que malgré, et j'adore vos cours parce que malgré nos différences, vous avez parlé, j'ai écouté beaucoup de vos cours, on pourra en parler pendant longtemps, mais malgré les différences du peuple juif, on sent que quand on a un ennemi commun, on sent que quand il va y avoir cette guerre de Gog et Magog et que toutes les nations vont monter contre le peuple juif, qu'on soit à gauche, à droite, Chiloni, Haredi, Breslev, on va tous s'unir. Et c'est ça qui est fort. Malheureusement, ça vient souvent quand on a un oppresseur commun. C'est dommage qu'on n'arrive pas à ressentir cette...
En blaguant à 2%, parce que 98% c'est vrai, c'est que si on a pu traverser l'histoire, c'est grâce à nos ennemis. Parce
exactement.
Que si nous avions foutu la paix pendant ne serait-ce que 100 ans, il n'y aurait plus de vivre sur Terre.
Exactement.
Donc, les antisémites, grâce à vous, on est toujours là. Et continuez. On va arriver à la délivrance finale.
Exactement.
Et donc, que des bonnes choses, vraiment, et à très, très, très bientôt.
Kazak ou Baruch, Toda Rabba Rav. Qu'Hachem vous bénisse et vous renforce. Merci beaucoup pour tout.
Voilà. Écoutez, Léo, on continue donc. J'ai arrêté l'enregistrement là. On continue mercredi prochain à la même heure 14h, ok?
À la même heure 14h, je serai là sans aucun problème.
Donc, une heure chez toi, 14h chez moi.
Aucun problème.
Non, parce que finalement, je vois que ça a marché très, très, très fort. Et là, je sens que c'est vraiment un cours qui va apporter énormément de choses. Et on continue toutes nos études qu'on sur l'écouter moi, ok?
Grave. Vous ne vous rendez pas compte que ça fait des années que j'écoute tous vos cours. Je dois avoir des milliers d'heures enregistrées dans mon cerveau de vos cours, que ce soit à la salle de sport, pendant les entraînements, en courant, en allant au travail, dans ma voiture. Vous ne vous rendez pas compte tous les fois où on a étudié ensemble et vous ne saviez même pas. Alors, maintenant que vous me donnez l'opportunité d'étudier avec vous en face à face, sachez que j'ai des milliards de questions dans la tête qui vont venir.
Alors, on en a pour des années, Liam. Et même quand tu reviendras en Israël, on continuera cette rabouta, c'est sûr et certain.
Avec l'aide tachée.
Que des bonnes choses, Elio. Merci beaucoup, beaucoup. Tu as vraiment, les questions, les remarques étaient fabuleuses. Fabuleuses. Vraiment, je suis content, je suis très fier de toi. Et continue à te renforcer. Et bientôt, on se retrouve en Israël, figure.
Amen, ve amen. Merci beaucoup.
À bientôt. Alors, mercredi, on s'envoie un petit WhatsApp pour se le rappeler. Mais mercredi prochain, donc à la même heure, ok?
À la même heure, aucun souci, aucun problème. Et que ça renforce le peuple d'Israël. Merci. À très bientôt.
Au revoir.